Bonsoir.
Donc c'est notre quatrième cours sur les limites, donc l'exploration des concepts limites dans la psychanalyse. Les trois premiers étaient consacrés aux pulsions et à la psychosomatique, donc à la question des limites entre l'esprit et le corps, donc le psychique et le psychique. Et donc là, on va attaquer une deuxième phase, on va dire, avec deux exposés. Le premier qui aura lieu aujourd'hui et le second la semaine prochaine. Et ces deux exposés seront consacrés à une autre forme de limite, qui est la limite entre le moi et le non-moi, entre le sujet et l'objet, voilà, entre le soi-même et l'autre. La manière dont cette limite, cette différenciation se développe et se structure durant les premières expériences. Donc le premier exposé aura lieu aujourd'hui et est consacré à la thématique de la transitionnalité. Et donc Claire Durosard va vous exposer ça dans quelques instants. Je vais vous dire quelques éléments à propos de mon estimé collègue. Donc elle travaille dans le champ de la parentalité, de la petite enfance, dans un centre d'action médico-social précoce, donc avec des enfants petits, très petits, et qui sont soit porteurs, soit ont un risque potentiel de handicap. À côté de ça, elle travaille aussi dans un service de néonatologie, avec notamment un service de réanimation, et avec, à côté de ça, des groupes de parents adoptifs et adoptants, et puis enfin, elle a aussi une pratique auprès des jeunes adultes dans le champ de la psychiatrie. Voilà. Donc, je vais lui laisser la parole, et puis elle va commencer.
Voilà, donc bonsoir à tous. Je voulais commencer, pour introduire mon propos, je voulais reprendre un petit peu ce qui a été dit les semaines précédentes, lors des trois derniers cours, faire un peu le point avec vous sur la question de la pulsion, en gros, voir un petit peu tout ce qu'on avait déjà abordé, pour situer un peu mon propos et puis repartir un peu de ce qu'on avait déjà pensé ensemble. Donc on a vu que la pulsion, ça pouvait se définir à la fois comme un travail qui s'impose à la psyché pour transformer les excitations qui viennent du corps et auxquelles le sujet ne peut se soustraire. Donc ça, c'est la première chose qu'on a vue à propos de la pulsion. Donc on a vu aussi que la notion de transformation, ça voulait dire rendre psychique, c'est-à-dire le processus par lequel le sujet va être amené à se représenter ce qui va se passer en lui, et notamment les excitations auxquelles il est soumis sur le plan somatique. On a vu aussi que la pulsion, ça pouvait se définir comme une poussée constante, à l'inverse des excitations extérieures qui sont des excitations qui peuvent être temporaires et limitées. La pulsion, elle, c'est une source d'excitation qui exerce une poussée constante par rapport au sujet, qui va s'organiser selon une source, un but et un objet, et qui va pouvoir s'organiser aussi, ça c'est ce qu'on a vu notamment avec la pensée de Freud, en différents stades, avec donc on les a appelés le stade oral, le stade anal et le stade phallique. On a vu ensuite que la pulsion, elle pouvait connaître deux destins, les destins en termes de représentation, comment est-ce que cette pulsion, elle va être amenée à se représenter dans la psyché du sujet. Elle va se représenter à partir de processus de représentation, donc représentant représentation, et d'un autre processus qui s'appelle le représentant affect. Donc ça, c'est les deux destins de la pulsion. Jusque-là, on a développé des points de vue qui plaçaient la pulsion à l'interface d'un processus phylogénétique et ontogénétique, c'est-à-dire à la fois entre l'espèce et l'individu, on va dire, et à l'interface du soma et de la psyché, on pourrait dire entre le corps et l'âme. À ce titre, on a vu que c'était une question qui recouvrait des préoccupations humaines de toute éternité, puisque on a vu que même les philosophes avaient pu se saisir de cette question et que différentes théorisations avaient pu être produites qui avaient conduit soit à une pensée moniste, soit à une pensée dualiste, à savoir est-ce que L'être humain, il est divisé en deux entités, corps et âme, ou bien au contraire, est-ce que c'est une seule entité. On a proposé la pensée freudienne comme étant une forme de troisième voie qui pouvait un peu s'offrir entre ces deux positions monistes et dualistes. Et à ce titre-là, on a vu que la pensée freudienne, elle nous proposait de penser que le corps et l'âme, ou le soma et la psyché, étaient en quelque sorte deux entités, mais qui se touchaient, et entre lesquelles il y avait des va-et-vient et des allers-retours du corps vers la psyché et de la psyché vers le corps. Nous avons abordé aussi la question de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, et enfin le rôle du fantasme dans cette organisation. Donc, au terme de ces trois cours, on peut dire que la pulsion, c'est un mécanisme psychique qui est très complexe. Et la question qu'on peut se poser, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, c'est comment est-ce que ça vient à la psyché? Et au fond, peut-être qu'on pourrait s'interroger sur les conditions de son émergence, et est-ce que c'est un fonctionnement biologiquement déterminé, ou est-ce qu'au contraire, il est dépendant de certaines conditions? Ce qui va revenir à interroger le rôle et la place de l'objet dans la constitution et l'émergence de la vie pulsionnelle. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui à travers la question qui nous occupe. Donc la question, l'objet est-il hors sujet? Et à partir de cette question-là, je vais essayer d'aborder avec vous une notion qui est assez importante dans la pensée psychanalytique contemporaine, c'est celle de la transitionnalité que je vais déployer plus tard. D'abord, je voudrais revenir sur d'abord la pensée de Freud, hein, qu'on a pris beaucoup de temps à expliciter pendant ces trois cours. Alors, on a vu qu'il décrivait des processus qui étaient quand même assez complexes et des fonctionnements psychiques très sophistiqués, sans que presque jamais la condition de leur émergence, la question de leur condition d'émergence ne se pose à lui. Donc, finalement, il décrit tout ça un petit peu de l'intérieur et on va dire qu'il y a un moment un peu fondateur dans sa pensée, on va dire qu'il y a un tournant, il y en a eu plusieurs, mais il y a un tournant autour de 1897, donc assez tôt dans sa conceptualisation, qui est celui de l'abandon sanorotica. Donc c'est ce qu'il va dire à un ami, William Fliss, dans une lettre qu'il va lui écrire en lui disant que finalement il va renoncer à la théorie qu'il a appelé neurotica, selon laquelle les troubles névrotiques qu'il rencontre chez ses patientes trouveraient une origine dans une réalité, d'une scène de séduction vécue réellement par ses patientes étant enfants. Donc ce qu'il avait appelé sa neurotica et qu'il trouvait une étiologie dans la réalité de l'histoire de ses patients, finalement il va l'abandonner, donc il va se détourner de la question de l'étiologie dans une réalité extérieure, pour investir toute la question de la réalité interne et, entre autres, la question du fantasme. Donc il va commencer à accorder une importance assez centrale à la question de la vie fantasmatique. Pour autant, il n'en délaissera jamais complètement la question de la réalité, de l'étiologie dans une cause extérieure de la réalité du sujet. Il n'en délaissera jamais complètement cette question et on verra que tout au long de son œuvre, il va questionner ça, mais il ne l'investiguera jamais vraiment. Du coup, ça pose, on va dire, en quelque sorte un petit problème du point de vue de la définition de certains concepts, puisque au niveau de la pensée psychanalytique, vous l'aurez compris, on parle souvent de sujet et d'objet. Et avec la pensée que nous propose Freud, la question de l'objet, finalement, c'est une question assez floue. Et on peut penser que dans la manière qu'il a présenté les choses, l'objet, au fond, il est considéré comme un moyen par lequel la pulsion va s'assouvir, comme éventuellement un écran de projection et aussi un lieu d'investissement. Mais l'objet, c'est une notion ambiguë, parce qu'il peut être à la fois interne ou externe, hein, c'est aussi bien une représentation, donc interne, qu'un objet, une personne, donc externe au sujet. Et d'ailleurs, il faut quand même bien signifier que la personne en question, l'objet externe, a une importance qui reste quand même limitée dans la pensée de Freud, puisque c'est tout au plus un agent qui assure l'autoconservation du sujet. Donc finalement, la conception que nous propose Freud du psychisme, c'est une conception qu'on pourrait et qu'on a souvent qualifiée de solipsiste, alors qui vient du latin solus, qui veut dire seul, et de ipse, soi-même, qui au fond est une conception qu'on pourrait définir comme étant fondée sur l'idée que le sujet, il est à lui seul, à l'origine de lui-même en tant que sujet. Alors on peut penser que c'est l'avènement de la psychanalyse de l'enfant qui va offrir ses lettres de noblesse à la notion et au concept d'objet. Hein, comme nous l'a rappelé Jean-Baptiste Desvaux la semaine dernière, c'est bien des dispositifs d'investigation clinique que naissent nos théorisations, et c'est sans doute très différent de rencontrer l'infantile chez l'adulte, hein, en consultation ou dans le cadre de la cure, par exemple, que d'avoir affaire à l'enfance, à ce qu'on appelle l'enfance, c'est un terme qu'on doit à Ferenczi, qui désigne l'enfant d'avant le langage, que d'avoir de rencontrer l'enfance avant, dans le cadre d'une consultation parent-bébé, par exemple. C'est très différent, l'infantile chez l'adulte et la rencontre de l'enfance et dans le cadre d'une consultation parent-bébé. Et donc c'est bien parce qu'on ne rencontre pas les mêmes sujets quand on est, par exemple, psychologue ou psychanalyste d'enfant ou psychologue ou psychanalyste d'adulte, qu'on est amené à conceptualiser les choses de manière sans doute très différente, et que les conceptions freudiennes, qui se sont avant tout intéressées à des sujets adultes, à des patients adultes, elles ne se sont pas du tout organisées de la même manière, et que la question de l'objet peut-être était moins centrale dans ces théorisations, et peut-être qu'elle nécessitait moins le besoin de l'expliciter et de le définir clairement que quand on est face à un bébé ou à un enfant que ses parents nous amènent, et donc on est d'emblée confronté à la question de ses parents et de ses liens avec ses parents et donc avec ses objets. Donc sur le plan historique, pour rappeler quand même quelques éléments, la psychanalyse de l'enfant, elle est quand même, il faut le savoir, contemporaine, à peu près contemporaine de Freud, puisqu'on la doit, et c'est sans doute pas par hasard, ni complètement... c'est assez intéressant de savoir que c'est quand même à la fille de Freud qu'on doit ça, donc à Anna Freud, qu'on doit d'avoir pu investiguer un petit peu la question de la psychanalyse de l'enfant. Et cette pensée, elle va se développer ensuite particulièrement en Grande-Bretagne, notamment avec des auteurs comme Melanie Klein et comme Donald Winnicott, dont on vous a parlé la semaine dernière, et dont je vais vous parler également aujourd'hui. Alors, on a vu aussi que la question de la pulsion, Freud nous proposait de penser que finalement, la pulsion, c'était quelque chose qu'il fallait dompter, qu'il fallait civiliser, apprivoiser, donc tout un tas de termes comme ça qui donnent un peu le sentiment que la pulsion c'est quelque chose de sauvage et qu'il faut qu'elle subisse un processus que Freud lui-même va qualifier, enfin, ou qu'on traduit comme ça en tout cas, de processus de civilisation et que Freud appelle Kulturarbeit, le travail de la culture, traduit littéralement. Et donc selon cette conception, là, ce processus de civilisation, au fond, il serait... inné, où il répondrait à un processus évolutionniste, hein, puisqu'on nous dit, d'ailleurs, dans une phrase un peu célèbre, Freud nous dit que l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, qui veut dire que le développement de l'être humain, il récapitule toutes les étapes du développement de l'espèce. Et donc, à ce titre-là, l'enfant, il se conduit comme le primitif, hein, là je vous cite Freud, alors c'est très daté, hein, à partir des termes qu'il emploie, quand même, on parlerait plus de primitif aujourd'hui, mais en tout cas, à l'égard de sa vie pulsionnelle, l'enfant il va se comporter comme le primitif, c'est-à-dire qu'il va être incapable d'inhiber sa motricité, donc il va être plutôt dans le registre de l'action, au détriment du recours à la pensée, et qu'il va être dans l'incapacité d'inhiber sa motricité pour investir des modalités de fonctionnement psychique plus élaborées, comme le ferait un adulte. Donc dans une formule célèbre, qu'il énonce en 1932 dans les nouvelles conférences, il fait de nouveau une espèce de phrase qui fait beaucoup réfléchir, « Wo es war, soll ich werden », ce qui veut dire, approximativement encore, parce que c'est un peu compliqué de traduire l'allemand, « Où le ça était, le moi doit advenir », donc là où ça n'était que vie pulsionnelle déliée, celle-ci doit pouvoir se dompter, se civiliser, pour permettre l'avènement du moi. Donc c'est toujours l'idée que face à la vie pulsionnelle, l'individu, il doit dompter, civiliser sa vie pulsionnelle pour pouvoir advenir comme un sujet qui peut vivre avec les autres. Et c'est au moment où il énonce cette phrase qu'il va parler ensuite de la question du processus de civilisation, en donnant une image qui est assez intéressante, sur le plan de la métaphore, parce qu'il compare ce processus de civilisation à l'assèchement d'une mer intérieure en Hollande qui s'appelle le Zuiderzee, une mer intérieure qui a été produite par les tempêtes de la mer du Nord qui a été petit à petit poldérisée. Donc on a regagné des terres viables sur des terres qui étaient devenues sauvages en quelque sorte. Et donc, on voit bien à travers cette métaphore que l'idée du processus de civilisation, c'est l'idée de conquérir des zones sur des zones sauvages pour les rendre viables. Mais finalement, tout ça, ça nous laisse bien penser que la question de la vie pulsionnelle chez Freud et de la civilisation de la vie pulsionnelle, elle se fait selon un principe évolutionniste. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire que c'est inné. Ce qui fait que la pulsion, tout d'un coup, se civilise, eh ben, c'est inné. Alors que Winnicott, et c'est là où j'introduis la pensée de cet auteur qui, on vous l'a rappelé la semaine dernière, est un pédiatre psychanalyste, donc quelqu'un qui travaille auprès d'enfants, lui propose une toute autre approche, avec à son tour aussi une formule assez célèbre, qui est celle de « un bébé, ça n'existe pas », dont on vous a aussi parlé la semaine dernière, et qui peut paraître particulière d'affirmer cette idée, un bébé ça n'existe pas, mais ça n'existe pas si on ne prend pas en compte son environnement. C'est ça que sous-entend Winnicott quand il énonce cette phrase. Et donc, le bébé, en tant que tel, n'existe pas si on ne s'intéresse pas et si on ne prend pas en compte son environnement. Et on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas savoir comment il peut se développer si on ne s'intéresse pas à comment, dans quelles conditions il se développe et donc dans quel environnement. Donc c'est à partir de cette pensée, quand même, qui est assez récente, puisque Winnicott, ça reste quand même un vieux contemporain, mais ça reste quand même un contemporain, qui a écrit dans les années 70. Du coup, avec cette idée-là, on introduit la notion d'intersubjectivité, qui est une notion assez intéressante, qui n'est pas du tout présente dans la pensée de Freud, quoique... puisque parfois Freud, et vous allez le voir, peut faire allusion quand même à la question de l'importance de l'objet, mais c'est toujours très discret et très allusif. Alors, sur la question toujours de la pulsion, je vais revenir un peu à Freud, qui, dans un article « Pulsion et destin des pulsions » qu'il écrit en 1915, dont on vous a déjà parlé aussi, il va soulever une question qui est assez importante, sur laquelle il va s'étayer au niveau de sa théorie, pour penser la pulsion, et il va se demander comment l'être humain, est-ce qu'il va faire pour parvenir à différencier les excitations qui viennent du dehors de celles qui viennent du dedans. Et là, il va insister sur le rôle de la motricité en disant que c'est finalement la motricité qui permet à un tout petit, au début, de pouvoir discriminer ce qui vient du dehors et ce qui vient du dedans. Si par exemple, je donne un exemple très simple, l'excitation est externe, il va pouvoir s'y soustraire par le recours à la motricité, par exemple, s'il y a une lumière trop forte qui est trop douloureuse, qui crée une excitation désagréable pour lui, il va pouvoir fermer les yeux. Mais en revanche, si l'excitation, elle est interne, il ne va pas pouvoir la fuir sur le plan de la motricité, puisqu'elle vient du dedans. Et donc, le seul moyen que le sujet va avoir à sa disposition pour juguler cette excitation, ça va être de la traiter. C'est pourquoi Freud, c'est un petit peu ce que je rappelais au début, il va nous proposer cette définition de la pulsion, je le cite, « l'exigence de travail qui est imposée au psychique en conséquence de sa liaison au corporel ». Donc c'est parce que le psychique est lié au corporel que le corporel le soumet à des excitations qu'il ne peut pas éviter, qu'il ne peut pas fuir, qu'il va être mis en instance de la traiter par la question de la pulsion. Du coup, c'est toute la question qui se pose. Bon, certes, il y a cette question de différencier le dedans et le dehors, mais on peut penser quand même que ce n'est pas un travail évident. Si autant définir l'extériorité et donc par opposition l'intériorité par le recours discriminant à la motricité, ça paraît assez simple. Pour autant, arriver à qualifier ce qui se passe de l'intérieur, les excitations internes, les qualifier finement, se les approprier, ça paraît quand même être une chose quand même un peu plus ardue. Et on peut quand même se demander comment un bébé, puisqu'il s'agit quand même, on est à l'aube de la vie psychique et donc à l'aube de la vie tout court, on peut se demander comment un bébé qui est quand même dépourvu de ressources, qui est très dépendant de son environnement, et du point de vue de sa survie physique, mais aussi du point de vue de sa survie physique. Comment est-ce qu'il va parvenir à mettre en œuvre un travail aussi complexe et aussi ardu, alors que par ailleurs, bah, il a peu de moyens à sa disposition. Et c'est là, à mon sens, que les théories freudiennes, elles trouvent une impasse. Et qu'on a besoin, peut-être, d'avoir d'autres auteurs pour arriver à penser ce que Freud ne nous aide pas à penser. Alors, bon, je vous disais tout à l'heure que la question du recours à l'objet, même si elle était très peu abordée par Freud, elle l'était quand même, malgré tout, et il me semble important aussi de pouvoir, même si on peut qualifier sa pensée de solipsiste, de pouvoir aussi signaler quand elle ne l'est pas. Et notamment autour de la question de ce travail de différenciation et de qualification de ce qui se passe à l'intérieur de lui, Freud nous donne des indications assez intéressantes. Et il postule notamment qu'à l'origine du fonctionnement hallucinatoire, qu'à l'origine du fonctionnement psychique, le fonctionnement hallucinatoire est prépondérant donc, dans la vie psychique. Et donc c'est le premier moyen, selon lui, pour que l'enfant, que l'enfant a à sa disposition pour traiter les excitations internes. Donc, par exemple, un exemple très simple, quand l'enfant a faim, il va pouvoir réactualiser l'expérience de satisfaction de nourrissage de façon hallucinatoire. Alors, il faut savoir que, quand même, un bébé qui a faim, c'est quelque chose qui vit très souvent, puisque, ben, vous le devez le savoir, un bébé, ça mange toutes les 4 heures, hein, au début de sa vie. Donc, très rapidement, il fait de nombreuses expériences de satisfaction. Et donc, c'est aussi une expérience qui peut réactiver sur le plan hallucinatoire assez rapidement aussi. Du coup, Freud nous dit ça, c'est effectivement quelque chose qui est très juste, hein, que le fonctionnement hallucinatoire est à l'origine du fonctionnement psychique. Mais il se pose la question de savoir comment est-ce que l'enfant y va faire face à ce fonctionnement hallucinatoire auquel il recourt pour pouvoir patienter le temps que dans la réalité il trouve le sein ou en tout cas que l'objet ne réponde à ses besoins. Comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir laisser de côté le fonctionnement hallucinatoire pour investir la perception externe et pouvoir se saisir du sein ou du bouton qu'on lui propose pour se nourrir. C'est effectivement, Freud dit tout à fait de façon pertinente que une hallucination, ça nourrit pas son homme et encore moins son bébé. Et du coup, ça vient en contradiction, ce modèle-là, avec le modèle de l'autoconservation. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on peut se satisfaire sur le plan psychique par le biais d'une hallucination que pour autant on se satisfait sur le plan corporel et que on peut maintenir l'autoconservation. Donc dans un premier temps, il va postuler quelque chose d'assez compliqué. Il va dire que il va postuler pour un fonctionnement inhibiteur très précoce dans le mois du bébé, dire en fait, il y a un fonctionnement qui va inhiber l'hallucination pour permettre au bébé d'investir la perception, et donc qu'il ne meurt pas de faim à force de penser qu'il se nourrit de son hallucination. Et puis finalement, il renonce à cette conception parce qu'il est obligé de réaliser que c'est une conception trop élaborée, hein, parce qu'un bébé, comme on l'a déjà dit, qui est suffisamment démuni et suffisamment dépendant de son environnement, il ne peut pas on ne peut pas penser qu'il puisse avoir un fonctionnement aussi complexe que celui qui reviendrait à pouvoir inhiber une hallucination par rapport à une perception. Et donc, il va nous donner à penser que peut-être, ça je vous le dis, il nous donne à penser dans une note de bas de page, hein, c'est pour dire la place qu'il laisse à l'objet, mais que peut-être, si ce modèle-là de l'inhibition de l'hallucination est trop élaboré pour le bébé et que donc c'est sans doute pas le bon modèle, il va nous donner à penser que peut-être, c'est parce qu'il y a des soins maternels que le bébé, il va pouvoir parvenir au fur et à mesure à inhiber le processus hallucinatoire pour investir la question de la perception. Voilà. Il nous dit que cette organisation, qui est quand même assez complexe, elle ne permet pas de maintenir en vie un bébé, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et elle ne le permet qu'à condition d'y ajouter les soins maternels. Voilà. C'est une condition qui nous signale en bas de page, mais en même temps qui est sans doute fondamentale dans cette conception. Et donc là, on voit bien que la pensée freudienne, elle n'est pas aussi, aussi solipsiste que ça. Mais pour autant, il ne détaillera jamais les rouages de ce qui fait que les soins maternels peuvent permettre à un bébé de se construire psychiquement. Et c'est bien là que la pensée winnicottienne, elle nous semble nécessaire. Et loin de s'opposer aux conceptions freudiennes, on peut penser qu'elle, au contraire, elle les étaye et qu'elle les développe. Alors, venons-en justement à l'œuvre de Winnicott, qu'on a déjà un petit peu abordé la semaine dernière avec Jean-Baptiste Devaux. Donc, on a vu que c'était un pédiatre psychanalyste anglais et qu'il avait développé des questions qui sont devenues assez célèbres dans le grand public, autour notamment de la question de la transitionnalité et de l'importance du doudou chez les tout-petits. Ça, c'est un petit peu les travaux qu'on connaît le plus de cet homme. Et donc, il va insister, comme je le fais déjà depuis tout à l'heure, sur le fait qu'au début de sa vie, le bébé, il est très démuni, il est très dépendant des soins de son environnement, et que donc, pour répondre à ses besoins vitaux, vitaux sur le plan physique et sur le plan psychique, il va avoir besoin de son environnement, et donc c'était le but de sa formule de tout à l'heure, un bébé ça n'existe pas, pour signaler qu'effectivement, sans son environnement, le bébé il ne peut pas vivre ni physiquement ni psychiquement, et que donc, pour répondre à ses besoins, il va lui falloir un environnement qui soit en capacité de le faire. Et il va développer à cet endroit une théorisation de quelles sont les conditions et les qualités nécessaires qui doivent être présentes dans l'environnement pour que le bébé puisse se développer de façon convenable. Et il va développer la notion de préoccupation maternelle primaire. Préoccupation maternelle primaire, dont il va nous dire que c'est un état proche de la folie, s'il n'était momentané, parce que évidemment c'est pas une folie qui est censée durer dans le temps. On pourrait dire que c'est une forme de folie ordinaire des mères. Donc cette préoccupation maternelle primaire, c'est celle de la mère des premiers temps, qui va s'adapter activement aux besoins de son bébé, et donc par là, mettre sa capacité au service de son bébé, mettre sa capacité à refléter, à réfléchir cet état interne. Donc c'est ce que Winnicott va dire aussi quand il va parler de la fonction du visage de la mère comme un miroir. La mère reflète à son bébé ce qui se passe en lui, ses états internes. Et donc lui permet, d'une certaine façon, de s'en saisir. Alors, c'est autour de la situation prototypique de l'allaitement qu'il va décrire tout ça. Et qu'en particulier, il va décrire une expérience assez importante qui est celle de l'illusion. Donc, entre un bébé et sa mère, il est nécessaire qu'il puisse y avoir un moment de partage, un peu d'illusion. Dans ce moment-là, et dans ce temps et dans ce lieu-là de l'illusion, le processus hallucinatoire, dont on a parlé tout à l'heure, qui est à l'œuvre chez le bébé très précocement, va pouvoir coïncider avec le processus perceptif. À ce moment-là, la question n'est pas de savoir d'où ça vient, d'où vient la perception, est-ce qu'elle est interne, est-ce qu'elle est externe, est-ce qu'elle m'appartient, est-ce qu'elle ne m'appartient pas. Il y a un processus d'illusion qui doit avoir lieu entre le bébé et sa mère, qui nécessite qu'on suspende, en quelque sorte, le jugement de l'origine de la perception. Et Winnicott va nous dire que, pour permettre que ce processus hallucinatoire qui se passe à l'intérieur du bébé corresponde dans un mouvement d'illusion au processus perceptif, il faut pour ça que la mère s'adapte activement aux besoins de son bébé et que donc, là je le cite, elle place le sein réel là où l'enfant est prêt à le créer et au bon moment. C'est-à-dire que l'enfant, sur le plan hallucinatoire, il crée la perception du sein, de l'expérience de satisfaction dont on a parlé tout à l'heure, et il doit pouvoir, dans le même temps, trouver le sein réel à l'extérieur, en quelque sorte. Sauf que la question de savoir d'où il vient, le sein, elle ne doit pas se poser. Évidemment, nous, si on observe la scène, on sait d'où il vient, mais du point de vue du bébé, la question ne doit pas se poser. C'est ça, l'illusion. L'illusion, c'est de se dire, au fond, on ne sait pas d'où ça vient. Et la question, ce n'est pas de savoir d'où ça vient. La question, c'est de pouvoir trouver quelque chose à l'endroit où on est en train, ou en tout cas le bébé est en train de le créer, à l'intérieur de lui. Voilà, donc c'est l'ère de l'illusion. Hein. C'est une ère où le moi et le non-moi sont confondus et où le bébé, du coup, n'a pas à faire l'expérience douloureuse pour son narcissique, qu'il est entièrement dépendant de son environnement et que toute sa survie dépend de, bah, de, des autres. Alors, ce processus d'illusion qui est nécessaire au premier temps de la vie du bébé pour constituer sa vie psychique, Winnicott va le qualifier avec un terme qui est assez célèbre aussi, c'est la question du processus en trouver créé. C'est exactement ce que je viens de décrire, c'est-à-dire le processus qui vise à ce que, par un processus d'illusion mutuelle entre la mère et son bébé, on suspende l'origine de l'expérience, qu'elle soit moi ou non moi, c'est pas ça qui compte, mais ce qui compte, c'est que ce qu'on trouve à un endroit, enfin, ce qu'on est en train de créer à l'intérieur, puisse rencontrer une réalité à l'extérieur. C'est donc ça le trouver créé. C'est une ère d'expérience dont Winnicott nous dit qu'elle est aussi bien moi que non moi. Alors, il nous fait un petit schéma. Donc ça, c'est dans Jeu et réalité, un livre des plus célèbres qu'il a écrit en 1975. Donc voilà le petit schéma qui donc, se trouve sur la gauche, qui nous propose, donc voilà, l'illusion, c'est entre la mère et l'enfant, une zone de partage. Alors moi, je vous ai proposé un autre schéma parce qu'il me semble plus parlant. Voilà. Bon, vous pouvez les apprécier. Alors, voilà comment ça se passe dans la situation de préoccupation maternelle primaire et dans les premiers temps de la vie du bébé. Donc, je rappelle quand celui-ci est trop dépendant et qu'il ne pourrait pas supporter qu'on lui rappelle sa dépendance. Du coup, on suspend l'origine de la perception par l'adaptation active de la mère aux besoins de son bébé. Petit à petit, parce que Winnicott nous dit, c'est un moment temporaire, ce temps de folie maternelle primaire, préoccupation maternelle primaire, mais qui est un moment un peu fou, petit à petit, l'enfant, vous le savez tous, pour ceux qui en ont ou ceux qui en observent, ceux qui les côtoient, ben, un enfant, ça développe assez rapidement de l'autonomie. Et donc, il va avoir une capacité croissante à la fois lui-même pouvoir assumer un petit peu de ses besoins, ou du moins de ses désirs, et au fur et à mesure de ce développement de son autonomie, il va pouvoir aussi s'adapter petit à petit aux défaillances de son environnement. Défaillances qui sont nécessaires et défaillances qui sont même fondatrices de sa vie psychique. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle les défaillances, c'est le fait que petit à petit, l'environnement va pouvoir faire supporter à l'enfant des écarts par rapport à ce temps premier de confusion et d'illusion. Et petit à petit, ces écarts-là vont pouvoir être tolérés parce que l'enfant, il a suffisamment d'autonomie et il va avoir des capacités de plus en plus importantes à supporter la désadaptation partielle de sa mère. Alors, au fur et à mesure que cet écart va se constituer, du coup, il y a toute la question de ce qui était suspendu dans le temps de l'illusion, hein, c'est-à-dire savoir si ça venait du dedans ou du dehors, toute cette question-là, elle va pouvoir être réinvestie et petit à petit, l'enfant va pouvoir parvenir à discriminer ses fonctionnements hallucinatoires internes, hein, investir ses représentations psychiques et puis des perceptions extérieures. C'est dans cet écart-là qu'il va pouvoir commencer à se représenter et à discriminer ce qui vient du dehors et ce qui vient du dedans. Donc dans cette conception, on voit que la vie psychique, ce n'est pas quelque chose qui est donné d'emblée, hein. Ça se construit, ça s'organise, et ça s'organise grâce aux soins maternels. Alors bon, plus globalement, on dit soins maternels, c'est soins qui sont dispensés par un environnement qui présente suffisamment de qualité. Alors, un psychanalyste contemporain qui s'appelle René Roussillon propose, pour essayer de préciser un peu cette notion, des soins maternels, parce que finalement, Winnicott nous dit quoi ? Il nous dit la préoccupation maternelle primaire, l'ère de l'illusion, etc., l'ère intermédiaire d'expérience, très bien, mais il ne nous détaille pas plus, c'est déjà pas mal, Il nous dit la mère place le sein à l'endroit où l'enfant est prêt à le créer, mais il ne nous en dit pas plus de comment ça se passe. Alors René Roussillon, il nous propose de penser un petit peu plus précisément ce qui est susceptible de se passer entre cette mère et son bébé, et ce qui se passe chez la mère particulièrement. Et donc, il va développer un concept qui s'appelle le concept d'homosexualité primaire en double. Alors ça me rappelle une question que, je ne sais pas si la personne est là ce soir, qui avait été posée lors d'un des premiers cours sur la question du rapport de la mère au sexe de son bébé et comment est-ce qu'elle pouvait avoir un maternage différent en fonction de son sexe. Alors justement, on avait été amené à renvoyer le fait que, au début du moins, la mère est dans un rapport homosexuel au sens de homosexuel, là, plaisir partagé, hein, homo pour souligner le fait que c'est dans un partage en tant que même que cette expérience elle est importante. C'est parce que la mère elle est capable de désinvestir en partie son altérité vis-à-vis de son bébé et qu'elle peut s'identifier à lui comme un même, comme un double d'elle. Qu'elle va pouvoir mettre en œuvre toutes ses capacités et aider son bébé à se développer. Donc c'est ce que nous apporte la pensée de Roussillon par rapport à celle de Winnicott, c'est que la mère, elle est dans cette attitude, dans ce moment d'homosexualité primaire en double, dans cette capacité qu'elle va avoir à s'identifier à son bébé comme un double d'elle et à lui renvoyer, comme un miroir, hein, c'est ce que nous dit Winnicott, lui renvoyer ce qui se passe en lui. Indifféremment de son sexe, du moins au début. Donc elle se proposa comme un double de lui. Et en même temps, et là c'est là que Roussillon nous dit attention, il ne s'agit pas pour autant d'être dans un moment de confusion, hein, on ne mélange pas tout. En même temps, ça c'est possible que parce que la mère, par ailleurs, elle peut investir une altérité et qu'elle peut se vivre malgré tout comme fondamentalement autre. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est capable de proposer, et ça c'est, je trouve, l'intérêt du schéma que je vous propose, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a qu'une part d'elle qui se prête à ce jeu de l'illusion et de l'homosexualité primaire en double, une part d'elle qu'elle va rendre indifférenciée vis-à-vis de son bébé, et qu'elle va laisser être gagnée par la confusion potentielle. Donc une part d'elle qu'elle va proposer à son bébé, mais que ce n'est pas complètement elle qui va être dans la confusion et prise dans la confusion avec son bébé, parce que la confusion, ça n'a rien de bon. En revanche, l'illusion, c'est quelque chose de vraiment organisateur pour le sujet. Donc elle est à la fois capable d'être en double, et en même temps d'être suffisamment autre pour que être en double, ça ne peut pas dire être pareil, être même, être confondu. Donc, on peut dire que le sentiment d'identité, il se fonde à la fois sur une expérience d'illusion et peut-être de confusion, et en même temps sur l'expérience de l'altérité. Alors, sur cette question de l'illusion, je voulais juste préciser quelques petites choses. Actuellement, les travaux en neurosciences notamment montrent que très précocement chez le bébé, il y a une capacité à différencier ce qui appartient au monde extérieur et ce qui appartient à son monde interne. Du coup, ça n'invalide pas pour autant les théories winnicottiennes et celles qui ont suivi, parce qu'on n'est pas sur le même registre. Si effectivement le bébé a cette capacité cognitive, pour autant, psychiquement, il a ce besoin de pouvoir être dans ce rapport d'illusion au monde qui est proposé par, entre autres par son environnement, enfin entre autres par sa mère et par son environnement. Hein, il ne faut pas confondre les capacités cognitives et les besoins psychiques d'un bébé. Alors, sur cette question de comment l'enfant, petit à petit, va s'approprier ses expériences et puis devenir un sujet, devenir une personne, il y a une expérience que peut-être vous avez faite en tant que parent. C'est celle qui est décrite par Lacan, Jacques Lacan, autour du 18e mois de l'enfant. C'est la question du stade du miroir. Alors, ça, c'est vraiment une expérience assez intéressante à faire avec des bébés, enfin avec des tout-petits. C'est un moment où on réalise, enfin l'enfant réalise, et l'adulte de ce fait réalise, que tout d'un coup, il prend conscience du fait qu'il existe comme un sujet à part entière. Et ça se rencontre très, très simplement autour du miroir, un bébé qui va être dans les bras de son parent, qui va se regarder dans le miroir, qui va se retourner sur l'adulte qui le tient dans ses bras, qui va le regarder, qui va regarder le reflet de l'adulte dans le miroir, qui va se regarder, regarder son propre reflet dans le miroir, et qui va avoir ce que Lacan décrit sous le terme d'assomption jubilatoire, donc il va avoir un mouvement d'éclat de rire, parce qu'il va prendre conscience à ce moment-là qu'il est un sujet différencié. Donc on voit bien, c'est pas parce qu'il a la capacité cognitive de différencier les objets externes de lui, que pour autant, psychiquement, il s'est constitué d'emblée comme un sujet différencié. Alors, on dirait que dès lors qu'on parle de bébé, on parle de mère, et vous n'aurez pas tort. D'ailleurs, les hommes qui s'intéressent à la psychanalyse de l'enfant et particulièrement du bébé sont plutôt rares. En même temps, je vous dis ça et puis je ne parle que de Winnicott, donc c'est quand même une sacrée belle exception. Alors, je ne sais pas, c'est-à-dire que le domaine des relations précoces, ça serait le domaine réservé des femmes, des mères. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi le seul domaine qu'elles auraient le droit d'investiguer en tant que femme ou en tant que mère potentielle? Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne vous parlerai pas que des mères, parce qu'il me semble qu'il est fondamental de penser, pour penser la question du développement du bébé, de penser la question du père, à la place des pères. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il faut être deux pour faire un bébé, il faut être un homme et une femme. Quoique les médecins nous autorisent à penser que peut-être un jour, d'abord il faudra être trois parce qu'il faudra un médecin, et que peut-être on pourra se reproduire à partir de ses propres cellules, donc on n'aura plus besoin d'un homme ou d'une femme, mais que soi-même. Bon, on va laisser ces questions à la science et à l'éthique, en tout cas, sur nos conceptions classiques, qui malgré tout sont jusque-là assez ancienne, il faut un homme et une femme pour faire un bébé. Et donc, cette question de la place des pères, c'est une question importante qui, bizarrement, est souvent absente de la théorie psychanalytique. Alors, pas complètement, mais souvent on réalise que les théories psychanalytiques, elles réinvestissent la question du père à partir du moment où l'enfant est en âge d'investir le champ social. Donc, pas d'emblée. La question du père, elle est rarement présente d'emblée dans les théorisations psychanalytiques, et même chez Winnicott, on peut dire qu'il est sacrément absent. Alors, bon, la question de la place du père, évidemment, elle est importante. Et il me semble qu'elle est contenue dans la notion d'environnement telle que Winnicott l'a décrit. Parce que même s'il parle beaucoup des soins maternels, il nous parle aussi d'environnement. Et l'environnement, on peut penser que c'est la mère et le père, donc du moins l'environnement premier du bébé. Et donc il me semble qu'on ne peut pas penser la relation mère-bébé, mère-enfant, sans penser la question de la place du père d'emblée. C'est-à-dire que c'est aussi parce que le père est présent et qu'il a une qualité de présence à la mère du bébé, que celle-ci, elle peut se laisser aller à régresser dans cette position qu'on a décrite de préoccupation maternelle primaire. Voilà, la préoccupation maternelle primaire. Et que c'est bien parce qu'il y a un père pour, sécuriser tout ça, que la mère, elle peut accéder à cette folie ordinaire dont je vous ai parlé. Et donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure de la question de l'homosexualité primaire en double, sur le fait que la mère était dans cette capacité à la fois de se donner à son bébé comme étant un double de lui, dans un rapport homosexuel, en même temps, je vous disais, il ne faut pas que ça soit une expérience confusante où chacun, tout le monde est mélangé. Et la mère, elle doit pouvoir, malgré tout, investir une forme d'altérité. Et cette forme d'altérité, on peut penser quand même que c'est le père qui la porte. Et que la mère, pour pouvoir être dans cette capacité de préoccupation maternelle primaire et dans cette question de l'homosexualité primaire en double, il faut qu'il puisse y avoir un père, alors un père réel ou un père investi dans son désir, une altérité en tout cas, qui puisse permettre qu'elle ne soit pas complètement prise dans une forme de confusion avec son bébé. Et donc c'est bien la question de l'ailleurs de la mère qui est à questionner, et donc d'un investissement de la mère qui pourrait se reporter ou n'être pas complètement à destination de son bébé et qu'il puisse être qu'il puisse se porter sur une autre personne que l'enfant. Et donc cette chose qui détourne l'investissement de la mère, hein, ça va questionner l'enfant en fait. C'est que c'est quoi ce truc-là qui fait que ma mère, elle n'est pas toujours complètement présente à moi, même si même quand elle me donne le sein, peut-être qu'elle n'est pas complètement, pleinement présente à ce qu'elle fait, peut-être qu'elle investit psychiquement, elle pense à d'autres choses. C'est quoi cette chose-là, se demande le bébé. Et bien, cette chose-là, ça va prendre la forme du père. Et il va se passer quelque chose d'important dans ce que je vous décrivais tout à l'heure de la question de la désadaptation croissante de la mère et de l'autonomie grandissante aussi du bébé. Quelque chose qu'un auteur qui s'appelle Michel Fain a développé en termes de censure de la mente, et c'est un processus qui est à l'œuvre, on peut penser très précocement aussi, hein, de façon un peu parallèle avec tout ce que j'ai décrit avant. Et donc, la mère, elle va, parce qu'elle investit un ailleurs, elle a du désir pour un autre que son bébé ne la satisfait pas pleinement, elle va progressivement se désadapter, désinvestir le lien à son bébé au nom du désir qu'elle peut avoir pour un autre qui peut être le père. Alors là, je vous donne une petite citation d'André Green, le père est là à la fois chez la mère et chez l'enfant dès l'origine, ça c'est important. Plus exactement, entre la mère et l'enfant. Du côté de la mère, ceci s'exprime par son désir pour le père, dont l'enfant est la réalisation, et du côté de l'enfant, tout ce qui vient anticiper de l'existence d'un tiers, chaque fois que la mère n'est pas totalement présente et que l'investissement qu'elle fait de l'enfant n'est ni total ni absolu, sera après coup rattachable au père. Il nous dit ça dans Narcissisme de vie, Narcissisme de mort, qu'il a écrit en 1983. Donc c'est cet écart qui est toujours présent, et en arrière-fond d'abord, puis au premier plan ensuite, de la relation entre la mère et son bébé, c'est cet écart qui permet, comme on a dit, que l'illusion elle puisse avoir lieu sans qu'elle ne devienne pour autant une forme de confusion. Et donc c'est parce qu'il y a du féminin dans le maternel que le plaisir peut s'échanger et se partager entre la mère et son bébé, et que l'allaitement ne va pas se réduire complètement à une scène de nourrissage qui va concerner que l'autoconservation du bébé. Et notre petite citation d'Hélène Parra, qui a écrit « La fougue du lait, la mère et l'érotique de l'allaitement » en 1999, elle nous dit que pour être psychiquement nourricier, ce sein maternel doit avoir été et être encore érotique, tendrement érotique. Voilà. Alors, pour illustrer cette question du sein de femme, sein de mère, je vous propose cette illustration où, contrairement à la précédente, où vous voyez qu'on a une mère complètement préoccupée dans une adaptation tout à fait, moi je trouve très belle, à son bébé, à ses besoins. On voit qu'il est certes nourri au sein, mais qu'il se nourrit pleinement de ce que sa mère lui dit par ses yeux, par son attitude corporelle, elle l'enveloppe. Voilà, c'est une scène d'échange très forte. Ben, contrairement à cette scène-là, de la préoccupation maternelle primaire, ici on a une mère d'abord qui a un enfant plus grand, elle le tient bien en près d'elle, il peut s'asseoir, donc il est plus grand au niveau de son développement, puis elle a un sein qui, à la fois même s'il est tourné vers son bébé, ne lui semble pas complètement adressé, et si vous regardez plus précisément, pardon, vous pouvez voir que l'enfant y pointe du doigt quelque chose, et ce qu'il pointe du doigt c'est ça, parce que ce tableau c'est un diptyque. Donc il désigne, qui ça, les hommes, alors entre autres celui pour qui le tableau a été peint. Voilà. Donc on peut penser quand même que là, ce qui est mis en scène, c'est la question de la censure de la mante. Hein, ce bébé, il est en train de montrer du doigt, de dire bah, le sein, c'est peut-être plus pour moi qu'il est, mais pour mon père ou pour un ami. Voilà. Alors, sur cette question, un psychanalyste pareil, contemporain, qui s'appelle Jean Laplanche, et qui va proposer vraiment des notions très radicalement différentes de celles de Freud autour de la question de la pulsion. Et pour lui, la pulsion, ça va s'originer dans ce qu'il avait appelé la situation anthropologique fondamentale, donc, ce qui est en fait la scène de l'allaitement. Et pour lui, ce qui va se passer dans cette scène de l'allaitement, hein, cette situation anthropologique fondamentale, ce qui se passe entre la mère et son bébé, c'est qu'il y a une dissymétrie radicale, hein, puisque on a affaire à un adulte, hein, vous le voyez, cette femme là, cette mère, qui est dotée d'un inconscient refoulé qui va impacter la relation à son bébé de ses messages. Hein. Donc, ce qui se passe dans la scène de l'allaitement, c'est pas juste du lait qui coule dans la bouche du bébé, mais c'est aussi tout un tas de messages qui imprègnent la relation et qui sont envoyés, on va dire, par la mère à son bébé, parce que la mère, elle est dotée d'un inconscient, et que pour elle, hein, la scène de l'allaitement, elle contient un potentiel orgasmique. Donc l'enfant, selon la planche, il va recevoir ces messages, comme des messages énigmatiques, hein, c'est ce qu'il va appeler les signifiants énigmatiques, et donc ça va être des messages qui vont être pour lui fondamentalement séducteurs, et qui vont le pousser à chercher à traduire ces messages, à essayer de les comprendre, à essayer éventuellement de les théoriser ultérieurement. Et c'est ça qui, selon la planche, est à l'origine de la pulsion chez l'enfant. Donc on voit bien qu'on est dans une conception radicalement opposée de celle de Freud, hein, et d'ailleurs la planche refuse à cet endroit de suivre la pensée freudienne, et qu'il dit s'être fourvoyé, hein, il écrit un livre qui s'appelle « Le fourvoiement biologisant », donc chez Freud, de la pensée freudienne, et parce que Freud, on l'a vu, il considère que la pulsion, c'est un héritage phylogénétique, ancré biologiquement encore, alors que pour la planche, au contraire, la pulsion, elle naît de la rencontre de la vie psychique inconsciente de l'adulte, et entre autres de la mère, avec ce que ça va constituer d'énigmes pour son bébé. Voilà, autant vous dire que c'est un débat qui anime encore aujourd'hui les psychanalystes. Donc, ce que la pensée de la planche nous amène, c'est la question du message. Donc, la place du message dans la pulsion, dans la vie pulsionnelle. Alors, effectivement, face à ce débat, soit d'un côté la pulsion qui s'originerait dans des sources biologiques, soit de l'autre qui s'originerait dans un échange de messages entre un bébé qui ne sait rien et un adulte qui ignore tout, on pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire qu'il y a un débat manichéen et qu'au fond, on pourrait être amené à prendre position. Alors, là-dessus, je vous propose peut-être d'essayer de penser les choses différemment. Puisque nous l'avons vu, la planche nous propose de penser à la question du message. Et donc, est-ce qu'on peut penser, malgré tout, que le bébé, c'est qu'un simple réceptacle passif de ces messages? C'est peut-être là où la théorie de la planche trouve sa limite. Est-ce que c'est qu'un réceptacle? On peut quand même penser que c'est peut-être pas si simple que ça. Du coup, je vous propose de revenir à Winnicott, qui, comme on l'a vu toujours la semaine dernière, il propose de penser la pulsion comme quelque chose qui est en quête d'objet. Donc, du côté de Freud, la pulsion, c'est une recherche de plaisir et de satisfaction. Du côté de Winnicott, c'est une recherche d'objet. Du coup, on peut penser, par exemple, avec quelqu'un comme René Roussillon, que la pulsion, elle est à la fois en recherche d'objet, à la fois en recherche de plaisir. Hein, ce n'est pas forcément des pensées qui s'opposent. Et du coup, c'est un concept intersubjectif et que c'est une notion intersubjective. Alors, pour revenir à la question du message, si en soi la pulsion elle n'a pas de valeur de message à l'origine, on peut penser qu'elle prenne sens et qu'elle devienne messagère au fur et à mesure que la relation entre la mère et son bébé se constitue. Puisque, en effet, dans la mesure où, comme je viens de vous le dire, on peut penser quand même que c'est un concept intersubjectif et que la pulsion c'est avant tout ce qui existe entre un sujet et un objet, dans les premiers temps, on l'a vu, il y a une nécessité du recours à l'objet et à ses capacités interprétatives de la vie interne du bébé, et que c'est parce qu'il y a un environnement qui va être capable de refléter au bébé ce qui se passe en lui, hein, on l'a vu avec la fonction miroir du visage de la mère, que l'enfant il va parvenir à se saisir de ce qui se passe en lui, ses mouvements internes. Et donc, c'est bien à cet endroit-là, au sein même de ce processus, qu'on peut penser que la pulsion, elle va prendre une fonction de message, puisqu'au fur et à mesure, ce que le bébé va exprimer va prendre sens pour un adulte, et l'adulte va lui renvoyer quelque chose de ce que lui pourrait exprimer comme un message. Et au fur et à mesure, ça va s'instituer dans une forme de communication entre eux. Alors, on l'a vu tout à l'heure, Winnicott nous propose de penser des processus en trouver-créer. Donc moi, je vous propose, à la suite de Winnicott, de penser que la pulsion, c'est trouver-créer. La pulsion, elle se trouve créée au sein d'une relation entre un bébé et sa mère. Voilà, il y a à la fois des potentialités chez l'enfant qui doivent rencontrer des conditions bien particulières dans la réalité, on l'a vu, si la mère n'est pas dans un état de préoccupation maternelle primaire, sans doute que l'enfant ne déploiera pas ses compétences et ses potentialités de la même manière que s'il est confronté à une mère différente. Alors, il y a des compétences innées, mais c'est un potentiel, ça n'est pas programmé génétiquement, ou du moins, ça dépend du milieu. On peut donc penser que la pulsion est trouvée créée et qu'elle se situe à l'interface, dans l'interstice de la rencontre avec l'objet. On pourrait dire, en quelque sorte, que la pulsion, ça serait cette chose qui est en potentiel de déploiement et qui va prendre une forme singulière dans la rencontre avec l'objet, avec sa vie psychique inconsciente et la propre pulsionnalité de l'objet, évidemment. Au fond, on pourrait reprendre la formule de Sartre, l'existence précède l'essence, et on pourrait dire qu'effectivement, on existe bien avant d'être, et que le processus par lequel le bébé va devenir une personne, il est intimement lié aux conditions de la rencontre avec son objet. Ce qui pose la question de l'impact de la rencontre avec l'objet sur le développement psychique du bébé, et ça ouvre aussi la voie pour penser les écueils, et donc la psychopathologie précoce. Donc je vous proposais, pour terminer, d'aborder quelques exemples. Parce que je viens de vous décliner quelque chose de assez théorique. Et je vais essayer d'aborder avec vous un petit peu quels pourraient être ces écueils de ce fonctionnement très précoce et très important pour le développement du bébé. Quand le bébé ne rencontre pas ces conditions, on observe qu'il y a une psychopathologie qui peut avoir lieu. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de penser en termes de causalité simpliste. La psychopathologie, c'est toujours très complexe. Et donc, il n'y a pas de causalité univoque. Il y a des facteurs qui vont concourir au développement même précoce de la psychopathologie. Et donc, il s'agit, bien loin de moi cette idée, il ne s'agit pas de penser que parce que la mère est mauvaise, que le bébé est malade psychiquement. Le bébé ou l'enfant. Alors, pour penser les écueils et la psychopathologie précoce, je vous ai proposé de penser deux formes de causalité. Alors il y a les causalités extra-psychiques, donc ça va concerner toutes les conditions externes qui vont entraver la mise en place d'une bonne relation. Alors par exemple, on va trouver les conditions de la naissance, un bébé qui va naître pas de la façon dont on l'attend, qui va naître avec un handicap ou un déficit quelconque. Ça entrave les relations avec sa mère, parce que sa mère, elle s'est projetée avec un enfant idéal et qu'elle est loin de rencontrer cet enfant-là dans la réalité, parce qu'ensuite, l'enfant, s'il a un handicap ou un déficit, il va être pas forcément en mesure de renvoyer à sa mère des attitudes d'un bébé ordinaire, et du coup, sa capacité d'adaptation en tant que mère, elle va être entravée. Évidemment, dans les causalités extra-psychiques, on retrouve toute la question de l'hospitalisation. Un bébé qui est hospitalisé de façon précoce, du coup, c'est pareil. La relation, les conditions de la relation vont être entravées du fait de l'hospitalisation. Évidemment, on trouve aussi le placement en institution. Alors certes, on place des fois des enfants parce qu'ils ont des mères qu'on n'estime pas suffisamment bonnes pour s'occuper d'eux. Très bien, on les met à l'abri, mais pour autant, une institution, ça ne remplace pas une mère. Donc, même si ça le sauve sans doute d'une certaine folie, pour autant, ça peut contribuer aussi à entraver son développement. Alors, je voulais aborder avec vous un exemple de ces causalités extra-psychiques avec l'exemple de l'hospitalisme, qu'on appelle aussi autisme post-institutionnel. Donc, je vous ai mis quelques photos. Je voulais vous mettre un film au début parce que c'est vraiment très parlant. Bon, en fait, c'est un peu compliqué de mettre un film, donc je me contenterai de vous le décrire. L'hospitalisme, peut-être, c'est quelque chose que vous connaissez si vous avez en mémoire les images qui ont été diffusées dans les médias au moment de la chute du régime de Ceausescu en Roumanie, donc dans les années 90. Et donc, on a montré, entre autres choses, les orphelinats de Roumanie où on a découvert des centaines, je ne sais pas, mais un nombre incalculable de lits au milieu desquels des enfants étaient un peu démunis, tout seuls, se balançaient. Voilà, donc voilà ce que c'est que l'hospitalisme. Donc si vous avez vu ces images, peut-être que ça illustrera un peu mon propos. Là, je vous ai mis quelques photos. L'hospitalisme, ça se développe ça a été observé dans des contextes différents, mais au fond, on pouvait y trouver des liens à ces contextes-là. Ça a été à la fois décrit à partir des pouponnières dans le contexte de l'après-guerre, où les soins qui étaient dispensés aux enfants étaient très techniques, où il y avait une certaine rapidité dans l'exécution de ces soins, et du coup, très peu d'individualisation. Donc peut-être aussi, si vous avez déjà vu des images de ces moments-là, dans les années 50, les puéricultrices vraiment s'occupaient des bébés comme si ce n'étaient pas des êtres humains, comme des machines, c'est très machinal. Et du coup, on a observé que ça contribuait à développer l'hospitalisme, et évidemment, ça a été aussi beaucoup observé dans les orphelinats roumaniques, comme je vous le disais. Et donc, l'hospitalisme, c'est un tableau clinique qui va être décrit par un psychanalyste qui s'appelle Spitz, et qui a été amené à l'observer, ce tableau-là, lui dans un contexte pareil de pouponnière avec des enfants qui étaient placés du fait de l'incarcération de leur mère. Donc il y a une séparation brutale avec leur mère, et donc il observe, c'est ce que je vous ai mis là à l'écran, premier mois de séparation, une tristesse, des pleurs répétitifs et la recherche de contact. Au deuxième mois, on observe un arrêt du développement de l'enfant, une perte de poids, de la tristesse, une recherche de contact mais sans ardeur. Au troisième mois, le refus du contact, les insomnies, le refus de la nourriture, un enfant qui va se mettre à attraper des maladies, une anxiété et une indifférence, et aussi une généralisation du retard psychomoteur. Ça fait des enfants, c'est pour ça qu'on c'est un peu ce qu'on voyait sur l'image précédente, la petite fille à droite, des enfants qui développent du coup sur le plan de leur aspect corporel. Voilà, on voit qu'ils sont atteints un petit peu de ce retard psychomoteur. C'est des enfants dont on pouvait penser à l'époque qu'ils étaient débiles ou qu'ils étaient atteints comme ça de syndrome génétique, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque c'est réversible. Donc c'est un syndrome réversible. Simplement, j'ai oublié de vous décrire, après 3 mois, on observe un enfant qui a un visage figé, le regard absent, plus de pleurs ni de sourires, éventuellement des gémissements plaintifs, des stéréotypies, c'est ça qui fait qu'on a pu le qualifier d'autisme, et une incoordination oculaire, et évidemment une entrave du développement mental et physique. Alors, voilà, ça fait des tableaux assez impressionnants, et qui sont très rapides, puisqu'en 3 mois, on peut observer un enfant qui se dégrade complètement. Mais ce qui est assez intéressant, quand même, c'est que c'est un tableau qui est réversible, et la réversibilité est donc possible et rapide si l'enfant retrouve sa mère, ou s'il retrouve un objet... objet de substitut maternel avant la fin du 4e, voire du 5e mois. Voilà. Pour le tableau clinique de l'hospitalisme, donc on voit comment, quand les conditions extérieures de l'environnement ne sont pas réunies du fait de conditions extra-psychiques, là, puisqu'on n'est pas du tout dans le cadre d'une mère qui ne serait pas adaptée aux besoins de son bébé, mais parce que les conditions de l'environnement du bébé ne sont pas celles qu'il lui faut, on voit qu'un bébé il peut développer une symptomatologie très précocement et très rapidement du fait de l'absence de ses besoins fondamentaux, que ses besoins fondamentaux sur le plan psychique ne sont pas réalisés. Alors, dans les causalités extra-psychiques, j'ai aussi indiqué l'accession à prématurité, puisque Antoine vous l'a dit, je travaille en service de néonatologie, donc ça me semblait important de vous en parler aussi. La prématurité, c'est 7,5% des naissances par an, donc soit 60 000 naissances. Alors la prématurité, c'est pareil, ça peut être un facteur assez important d'organisation psychopathologique. Alors quand même quelques indices sur la prématurité. Ce qu'on appelle prématurité moyenne, c'est entre 33 et 36 semaines. Hein, vous savez que le terme d'une grossesse, c'est 41 semaines. Hein, donc quand un bébé naît entre 41 semaines d'aménorrhée, excusez-moi, quand un bébé naît entre 33 et 36 semaines, on considère que c'est une prématurité moyenne. La grande prématurité, c'est entre 28 semaines d'aménorrhée et 32 semaines. Alors, je ne sais jamais combien ça fait, je me suis notée là. C'est entre 3 mois de prématurité et 2 mois. Et puis, ben, la très grande prématurité avant 6 semaines, avant 28 semaines d'aménorrhée. Donc, ce qui est tout ce qui est les enfants qui naissent avant 3 mois, avant le terme. Donc, c'est évidemment des conditions de naissance traumatiques. Un état somatique préoccupant avec une immaturité pulmonaire, immaturité du rythme cardiaque respiratoire, immaturité digestive, immaturité du système immunitaire, neurologique et sensorielle. Et donc, ce qui, du fait de tout ça, nécessite une réanimation néonatale. Donc, vous avez la photo d'un service de néonat pour vous montrer quand même à quel point c'est quand même particulier d'avoir à rencontrer son bébé dans ce contexte-là. Hein, il y a plein de couveuses, il y a des gens habillés en blanc, c'est tout aseptisé. Voilà, il y a d'autres bébés, d'autres parents. Il y a tout un appareillage assez impressionnant. Donc, c'est des conditions de vie extraordinaires, hein, du fait de ces conditions d'hospitalisation. Et évidemment, il y a le contexte hospitalier que je vous ai décrit, avec la sepsie, donc les contacts rares et peu facilités, du fait de. Non seulement de la sepsie, mais aussi de tout l'appareillage que nécessite le bébé, des soins intrusifs et intensifs, des changements quotidiens de personnel et évidemment l'éloignement des parents. Évidemment, ça soumet l'enfant à un environnement non humain, hein, qui ne va pas favoriser son développement, parce que bah, quand vous voyez ce bébé qui est intubé, qui est soumis à tout un tas d'excitations par le biais de toutes ces machines, on peut quand même penser que ses débuts dans la vie sont quand même rendus complexes de ce fait-là. Évidemment, tout ça, c'est sans penser l'impact de l'événement traumatique sur la parentalité et la question de comment, qu'est-ce qui va advenir de la relation entre ce bébé et ses parents. On peut penser la question, certes, du prématuré, mais aussi celle de la parentalité prématurée et de tout ce que ça peut engendrer, donc, sachant qu'aussi il y a un risque de mort pour le bébé, comment on voit des parents qui peuvent être entravés dans leur parentalité et qui, du coup, même s'ils sont capables d'être, entre guillemets, de très bons parents avec leurs aînés, qui s'avère complètement incapable de s'occuper de leur enfant. D'accord. Voilà, des bébés, des parents qui peuvent être tout à fait capables de s'occuper convenablement de leurs aînés et qui tout d'un coup passent à un bébé prématuré. Du fait de toutes ces conditions un peu extraordinaires d'arriver dans la vie, et bien sont complètement démunis du point de vue de leur parentalité et de ce fait ne peuvent pas mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires à son bon développement psychique, parce qu'on ne s'inquiète pas trop de leur développement physique quand ils ont tous les appareillages qu'ils ont, même si des fois le devenir des prématurés peut être compliqué aussi de ce point de vue-là. Ça, c'était pour les causalités extra-psychiques, et je terminerai sur les causalités intra-psychiques, parce que c'est aussi celles qui nous occupent, évidemment. Et bien ça, c'est celles qui vont concerner, on va le dire comme ça, la psychopathologie de la mère ou du père, de l'environnement, sachant que quand même la naissance, c'est à considérer comme un facteur à risque, hein, pour un risque psychique pour la mère et pour la famille, parce qu'on sait par exemple que suite à des naissances, ben, des mères elles peuvent décompenser, décompenser sur un mode psychotique, ce qu'on va appeler les psychoses puerpérales. Hein, ça peut être des femmes qui sont psychiquement tout à fait saines, entre guillemets, enfin, qui se portent bien psychiquement et qui, quand elles ont un bébé, eh ben, décompensent sur un mode psychotique, délirant, et donc s'avèrent de ce fait incapables de s'occuper de leur bébé. Donc évidemment, les causalités intrapsychiques bah, sont sans doute liées à des difficultés psychiques propres à la mère, mais peuvent être aussi liées à ce que la naissance va réactiver chez une mère, chez son père. Alors, juste pour illustrer cette question des causalités intrapsychiques, j'ai choisi d'aborder la question du complexe de la mère morte, qui est un concept décrit par André Green, toujours dans Narcissisme de vie, Narcissisme de mort, qu'il a écrit en 83. Voilà, je trouve que l'image est parlante, hein, et puis la citation aussi. C'est la question de la mère morte, c'est celle je peux lire la citation, d'une image qui se serait donc constituée dans la psyché de l'enfant à la suite d'une dépression maternelle qui donc a transformé brutalement l'objet vivant, source de vitalité de l'enfant, en figure lointaine, atone, quasi inanimée, imprégnant très profondément ses investissements et les investissements. Donc cette figure de la mère morte, hein, il ne s'agit pas d'une mère morte réellement, hein, mais morte psychiquement, va occasionner une dépression chez l'enfant, dont le trait essentiel, c'est qu'elle a eu lieu en présence de l'objet, lui-même absorbé par un deuil. Et il me semble qu'on n'a rien d'autre à rajouter après cette citation et l'illustration que je propose, parce que là, on voit concrètement ce que c'est qu'une mère morte psychiquement pour son enfant. C'est une mère qu'on voit déprimée, qui ne regarde pas son enfant, hein, qui est tournée vers son intériorité, vers sa dépression, et qui du coup lâche son enfant. On voit bien comment elle ne le tient pas, hein, c'est le petit ange qui place sa main pour éventuellement le réceptionner, ce bébé. Et on voit un bébé qui tend ses mains vers sa mère, qui chercherait peut-être à s'agripper à elle, et qui vit une certaine forme de détresse, mais qui lui aussi est dans une forme de dépression, en miroir du visage de sa mère. Hein. On voit bien comment il est, à part au niveau de sa motricité, où on voit qu'il y a quelque chose qui s'exprime du côté de la détresse, mais même ses traits au niveau du visage n'exprime pas la détresse, il est simplement un miroir de la dépression maternelle. Voilà, tout ça pour introduire la question d'essayer de penser qu'il y a des impacts hein, et des écueils, des impacts de la rencontre avec l'objet quand celui-ci ne présente pas les conditions nécessaires, et donc des écueils, et que c'est ça qui peut nous permettre de penser à la psychopathologie très précoce. Voilà, je vous remercie.